Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La fin de vie, l'euthanasie, plusieurs parlements européens se saisissent à nouveau de la question. En France, le débat est lancé ce jeudi à l'Assemblée nationale. L'Espagne a déjà franchi le pas aux côtés des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. C'est le quatrième pays européen à autoriser l'euthanasie pour les malades souffrant d'une maladie incurable ou handicapante. Le texte a été adopté à une très large majorité et il est soutenu par 85% des Espagnols. Dans un pays qui a suivi le parcours de plusieurs malades, très médiatisé, cette nouvelle loi est vécue comme une victoire par l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Elle se bat depuis des années pour faire changer les mentalités et la loi. C'est le reportage à Barcelone d'Élise Gazangel.
Dans le centre culturel de Sant Joan d'Espí, en banlieue de Barcelone ce mercredi soir, une vingtaine de personnes se sont déplacées pour l'exposition sur le droit à mourir dans la dignité, organisée par l'association du même nom, la DMD. 30 dessins, signés par autant d'artistes, viennent explorer un thème difficile. Cette fois, l'exposition fait écho à l'actualité. La loi autorisant l'euthanasie en Espagne vient d'être votée, quelques jours plus tôt. Montse Baquer, infirmière quinquagénaire.
Il était temps qu'une loi protège les personnes qui veulent décider quand et comment elles vont mourir, parce que je crois que c'est un droit. En plus, professionnellement, moi j'ai vu des morts dignes, mais aussi des morts très indignes. Et c'est pour cela que je suis plus sensibilisée peut-être. C'est un sujet qu'on aurait dû déjà aborder avant, mais il n'est jamais trop tard.
Après l'exposition, l'association a organisé un débat autour de la mort. Ginés Ross est venue avec sa femme, Encarna Ramos. Le couple de sexagénaires y voit l'occasion de briser un tabou.
Moi, je n'ai jamais eu peur de parler de la mort, mais parfois à la maison, j'ai essayé de lui en parler, de lui dire comment je veux mourir, et il n'a pas voulu m'écouter. Comme j'insiste beaucoup, il a fini par ouvrir les oreilles, et c'est pour ça qu'il a voulu venir aujourd'hui.
Sa manière de vivre lui a fait voir les choses différemment. Mais moi, dans mon entourage, la mort a toujours été obscure. Chez moi, on ne pouvait pas parler de la mort.
Voilà près de 40 ans que l'organisation DMD milite en Espagne et organise ce genre d'événement. Pour Isabelle Alonso, vice-présidente de l'association en Catalogne, la loi est le résultat d'années de militantisme auprès de la population, mais aussi des politiques.
Les mairies nous ont souvent permis d'organiser des activités dans des espaces municipaux et cette dynamique nous a aidés à toucher le plus grand nombre. Alors je crois que d'un côté, la société a fait pression et de l'autre, l'association a eu une très bonne influence sur la politique. Elle a agi comme un bon lobby.
En conséquence, queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia.
Après les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, l'Espagne est donc devenue le 18 mars dernier le quatrième pays européen à légaliser l'euthanasie pour les malades graves et incurables. Pour Isabelle Alonso, c'est un soulagement.
Jusque-là, on devait leur dire « tu n'as pas de solution à part te retrancher dans l'illégalité ou penser aller en Suisse ». Et c'était rajouter de la douleur à la douleur. Cette sensation horrible, on va pouvoir enfin l'oublier et leur donner de meilleures solutions.
Mais la DMD ne compte pas se dissoudre. Elle continuera à accompagner les malades, expliquer la loi ou lutter pour qu'elle soit plus inclusive. Karma Barahona est l'une de ses membres. Il y a 3 ans, son fils Ivan a choisi de mettre fin à ses souffrances. Il avait 43 ans et il était atteint d'une maladie génétique rare qui attaque le système nerveux central. Karma se souvient du jour du diagnostic.
C'était une double condamnation à mort, celle imposée par la maladie et celle imposée par l'État. En gros, on lui disait « toi, tu vas mourir, mais en plus, tu vas souffrir énormément parce que tu partiras quand la maladie le voudra et nous, on ne te protégera pas. Et si jamais quelqu'un t'aide, on le condamnera. »
Dès la mort de son fils, Karma a souhaité s'exprimer dans les médias. Pour elle, la prise de parole des proches des malades a aidé à faire que 87% des Espagnols sont aujourd'hui favorables à l'euthanasie.
Il fallait que l'on martèle sans cesse, poum, 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 le message avec des exemples pour expliquer que ça arrive à tout le monde et ça peut vous arriver et ça arrive à beaucoup de personnes. Il fallait qu'ils comprennent cette douleur. Moi, j'ai dû aller au travail, pointer, alors que mon fils était en train de mourir et cette cette douleur-là, elle aurait pu être évitée.
Atteinte d'un cancer des os pour lequel elle est traitée, Karma sait que la loi pourra l'aider si la situation se dégrade. Son pays lui garantit désormais le droit de partir dignement.
La loi espagnole entrera en vigueur en juin. Il faut savoir aussi que le Parlement portugais a également adopté une nouvelle loi légalisant l'euthanasie, mais le texte a été invalidé par les juges de la Cour constitutionnelle. Retour à la case départ donc au Parlement avec un nouveau texte et un nouveau vote. Et en Suisse, on ne parle pas à proprement parler d'euthanasie, mais de suicide assisté. C'est le patient qui s'injecte lui-même la dose létale. Dans cette démarche, les médecins supervisent, mais ce sont surtout les associations qui prennent en charge l'organisation de cette fin de vie. Parmi les nombreux collectifs, on trouve Exit, qui l'an dernier a aidé 1282 personnes à se donner la mort. À 83 ans, la cofondatrice d'Exit est prête à franchir le pas à son tour. Jérémy Lanche l'a rencontrée à Genève.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, ça va, ça va. Moi, je ne sais pas si j'ai besoin de mettre le masque parce que je suis vaccinée.
Béatrice Deslarz est ce qu'on appelle une femme avec une vie bien remplie. Ancien médecin ORL, consultante en prison, élue municipale et même musicienne avec plusieurs albums d'électro à son actif. À 83 ans et affaiblie par la maladie, elle a décidé de mettre un terme à ses souffrances en demandant à son tour de bénéficier des services de l'association d'aide au suicide Exit qu'elle a contribué à créer.
Je ne sais pas si je veux que ça s'arrête, mais en tout cas, je pense que j'ai déjà 83 ans. J'étais bobo, en tout cas de polypathologie due à l'âge qui m'empêche de respirer. Je ne veux plus retourner à l'hôpital. Ça ne vaut pas la peine parce que ça revient comme ça de temps en temps. J'ai le droit de choisir le moment de partir.
En Suisse, seules trois conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier d'une aide au suicide. Il faut être capable de discernement, ne pas être influencé dans son choix et pouvoir s'administrer la dose de poison seul. Certains aimeraient même aller plus loin en autorisant l'aide au suicide aux personnes non malades. Béatrice Deslarz parle d'interruption volontaire de vieillesse.
Ça veut dire que si on a envie de mourir sans pathologie, eh bien, on peut mourir si on a envie. Mais ça, c'est un peu tôt, c'est pas du tout encore admis. Pour l'instant, il faut quand même être malade. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être vraiment en fin de vie, se laisser souffrir pendant des mois et des années. Parce que en Suisse, dans toutes les associations Exit, vous devez avoir une pathologie, vous devez servir un dossier avec des pathologies qui valent la peine parce que sinon, vous n'êtes pas accepté.
L'ancienne médecin a elle-même refusé plusieurs dossiers de patients qui ne correspondaient pas aux critères requis. Chez Exit, on n'accepte pas non plus les personnes de nationalité étrangère qui se tournent vers d'autres associations, très souvent en Suisse alémanique. C'est ce qu'a fait l'ancienne secrétaire d'État française Paulette Guinchard, qui a eu recours au suicide assisté début mars. Béatrice Deslarz espère d'ailleurs que les Français n'auront plus besoin d'aller en Suisse pour cela.
Ils ne doivent pas attendre, comme par exemple maintenant justement il y a la loi Leonetti où il le met dans le coma et ils attendent des jours, en tout cas des semaines, peut-être des mois avant de mourir. Ça je trouve complètement inhumain. Alors comme ça ils n'auront plus besoin de venir en Suisse, mais la France c'est vraiment... Ils ont un retard énorme dans ce domaine.
Les opposants au suicide assisté sont minoritaires en Suisse. Mais ces dernières années, plusieurs cas ont suscité la polémique. Des médecins ont été condamnés pour avoir donné trop facilement la mort à des personnes qui souffraient de troubles psychiques ou qui ne supportaient pas l'idée d'être veufs. Béatrice Deslarz, elle, semble avoir fait son choix, même si elle n'a pour le moment pas fixé ni la date ni le lieu de sa mort. Celle qui se définit comme une éternelle rebelle affirme qu'elle se garde quand même le droit de changer d'avis jusqu'au dernier moment.
Direction l'Italie pour notre chronique livre avec cette autobiographie d'une photographe pas comme les autres. Elle a couvert dans les années 80-90 ce qu'on appelle les années de plomb en Sicile. Ces images en noir et blanc ont documenté la violence des meurtres de la mafia. Pour autant, Laetitia Battaglia refuse d'être réduite à ce seul surnom de la photographe de la mafia. À 85 ans, elle ne manque pas d'humour et de liberté. Son livre, prendo il mondo ovunque sia, je prends possession du monde où qu'il soit, coécrit avec la journaliste italienne Sabrina Pissou, raconte une vie bien remplie, loin des codes attendus. Cécile de Barge l'a rencontrée à Palerme.
Il y a dans la vie de Laetitia Battaglia un avant et un après la photographie, deux vies que tout sépare. Jusqu'à 40 ans, elle élève ses trois filles sans sortir du périmètre que la société de l'époque assigne aux femmes, la maison. La photographie marque le début de sa deuxième vie.
Ma vie avec la photographie est devenue finalement liberté, indépendance, création. Grâce à l'appareil photo à 2 francs 6 sous avec lequel j'ai commencé, tout a changé.
Laetitia Battaglia commence la photo un peu par hasard. Fraîchement divorcée, elle a besoin de gagner sa vie. Elle quitte Palerme pour Milan où elle propose quelques articles. On lui demande de prendre des photos. Elle n'arrêtera plus.
Quelle que soit la qualité de l'appareil photo, sa beauté, sa valeur, ce n'est pas ça qui compte. Moi, je n'y fais même pas attention. Je ne suis pas une technicienne. Les photos, c'est comme ça. Elles se font presque toutes seules.
En 1979,
elle revient dans sa Sicile natale. Le journal palermitain Laura lui propose de devenir chef du service photo. C'est une première pour une femme en Italie. Son retour coïncide avec la guerre sanglante que se livrent deux clans mafieux, les Corleone et les Palermitains. Les morts se comptent par centaines. Sa rédaction, comme d'autres, parvient à capter la fréquence radio de la police. À la moindre alerte, les photographes courent sur les lieux du crime.
On ne savait jamais qui ils avaient tué ou ce qui s'était passé, mais on savait qu'il y avait quelque chose. Alors on partait, on arrivait tout de suite. Il fallait arriver à toute vitesse, sinon ils pouvaient retirer le corps ou bloquer l'accès. Plus tôt on arrivait, mieux c'était.
Sur place, son carré blond et sa frange détonnent au milieu des hommes. Les agents de police ne la voient pas franchement d'un bon œil.
Ils ne voulaient pas que je photographie qui que ce soit, en particulier les premières années. La police me prenait pour une idiote, une femme qui fait des photos, mais pourquoi donc ? Les journalistes, ils ne m'aidaient pas. Les gens, ils ne me prenaient pas au sérieux. J'étais pas crédible.
Pourtant, en 1985, elle décroche le plus prestigieux prix de photographie sociale du monde, le prix Eugène Smith. La reconnaissance vient de New York. Aucune femme en Europe n'a reçu un tel honneur auparavant. Laetitia Battaglia se fait une promesse, en faire encore plus. Elle se lance alors en politique aux côtés d'une coalition de la démocratie chrétienne qui se transforme ensuite en liste civique.
Ça a été fatigant de faire de la politique à Palerme. La politique est d'une cruauté qui m'est étrangère, qui est féroce. Mais je n'ai pas vraiment fait de la politique. J'ai administré, j'ai fait des petites choses. C'est ça que j'aime faire, des petites choses, des détails, des choses sans grandeur ni éclat. Les petites pierres qu'on répare sur les trottoirs, toutes ces petites choses-là.
Ces petites choses, ce sont les 500 arbres plantés dans une ville engloutie par le béton des grands travaux de la mafia. Les bancs installés pour les habitants, un logement assigné à une mère célibataire sans le sou. Elle y consacrera près de 10 ans de sa vie avant de revenir à la photographie. Mais plus question de continuer à faire les photos d'avant.
La mafia andava avanti lo stesso.
La mafia continuait, quoi qu'il arrive. Ils étaient trop puissants. La corruption était aussi politique. Il y avait une complicité avec la société bourgeoise. Mes photos n'ont servi à rien.
Les mie foto non sono servite a un cazzo.
Laetitia Battaglia voyage, s'essaie à une photographie des détails, un peu comme elle se plaisait à résumer son parcours en politique. Des fleurs, des couples qui se tiennent la main, des scènes de vie et surtout des fillettes, des femmes.
J'essaie de photographier le nu des femmes, d'une certaine manière j'essaie. C'est un acte très politique. Avec l'appareil photographique, tu prends le corps de ces femmes, tu l'aimes, tu le respectes, tu ne l'utilises pas, tu ne le tortures pas, tu ne le manipules pas, et c'est une résistance.
Et anche un'altra resistenza.
Cet amour et ce respect profond pour les femmes, elle le partage aussi lors d'ateliers photographiques. Directrice du Centre international de photographie de Palerme, elle donne aussi des cours de photo gratuits aux femmes des quartiers populaires de la ville. Certaines ont un téléphone portable pour seul appareil photo. Elle crée un groupe WhatsApp avec elles et même en plein confinement, elle leur envoie des exercices.
Je leur ai dit, envoyez-moi une photo par semaine. Cette semaine, je leur ai dit, je veux quelque chose sur la paix et l'amour, je crois. Elles m'ont envoyé des conneries. Alors je leur ai écrit, ça, c'est pas une photo, c'est une carte postale. C'est extraordinaire.
À 85 ans, la liberté de ton de la photographe fait sourire, tout comme ses cheveux qu'elle teint en rose ou vert selon l'humeur. La photographe n'a jamais vraiment aimé ni les surnoms qu'on lui a donnés, ni les étiquettes. Sa seule règle, c'est de chercher la beauté, la chercher partout et sans relâche.
Et le livre de Laetitia Battaglia n'est pas encore traduit en français. Nous partons en voyage et en musique en cette fin d'émission avec vous, Vincent Teval. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Une escapade pas forcément très loin, à bord d'un bus ou d'un train du National Express, avec le groupe nord-irlandais The Divine Comedy.
Quand on pense voyage, on pense aux grands espaces, forêts et océans, montagnes et lacs, ou encore aux horizons un peu exotiques de villes inconnues, églises ou mosquées, musées et architectures remarquables. Mais si le premier dépaysement est finalement le plus important, c'était le voyage lui-même. Et à ce compte-là, pas besoin d'aller très loin. C'est ce que chante l'Irlandais Neil Annan sur ce morceau de Divine Comedy qui vante les mérites des voyages avec la National Express, l'ex-société publique britannique de transport en bus et en train. Alors si vous vous sentez triste, prenez place à bord du National Express où vous trouverez un concentré d'humanité, du vieillard faible au nourrisson braillard, et croiserez sûrement une hôtesse enjouée qui vend des chips et du thé et vous fournira boissons et clins d'œil théâtraux pour un prix exorbitant, et tout le monde à bord de chanter en chœur avec Divine Comedy.
Take the National Express when your life's in a mess, it'll make you smile. All human life is here, from the feeble old dear to the screaming child, from the student who knows that to have one of those would be a suicide, to the family man manhandling the pram with paternal pride. And everybody sing,
National Express du groupe The Divine Comedy. C'est ainsi que se termine Accent d'Europe, réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur le site de RFI à la rubrique podcast Accent d'Europe. À très bientôt.